travaille pour une agence d'État. Elle s'appelle la FMI.
Ce sont les initiales de quoi ?
La Force Mission Impossible.
RTL.
Votre mission, si toutefois vous l'acceptez.
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai déjà constitué une équipe.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonjour Olivier Tosser.
Bonjour.
Bienvenue chez
nous. Vous êtes journaliste, documentariste. Vous avez enquêté sur les RG, les renseignements généraux qui n'existent plus aujourd'hui. Un tout petit mot d'actualité. On a appris donc ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris. Un agent qui est entré à l'intérieur, qui a poignardé une collègue et blessé un autre et qui a été tué. Il y a, pour l'instant, le bilan provisoire parle de deux morts. Selon nos confrères du Parisien, c'est un agent administratif de la DRPP. Ça veut dire quoi la DRPP ?
La DRPP, c'est la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. C'est la filiale parisienne des renseignements généraux, en fait, des anciens renseignements généraux.
C'est-à-dire ce qui est devenu, ça s'appelle comment, les renseignements territoriaux aujourd'hui, maintenant ?
Aujourd'hui, les renseignements généraux n'existent plus.
Ouais.
Ils ont été rebaptisés. Il y a un nouveau petit service qui s'appelle le renseignement territorial. Ça, c'est dans la France entière. Et à Paris, il y a une situation un peu, une exception à Paris, puisque là, ce ne sont pas les renseignements territoriaux, mais la direction du renseignement.
Et alors, les membres de ces renseignements territoriaux, ce sont des policiers, c'est ça ?
Ce sont des policiers, absolument, comme les RG l'étaient.
Ouais.
C'est le service de renseignement de la police, on va dire.
Ils sont chargés de quoi ? C'est quoi leur boulot quotidien ?
Alors, le renseignement territorial, sa mission est très large, c'est surveiller un peu toutes les évolutions de la société. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, mais...
C'est pas surveiller les tendances, c'est plutôt surveiller les gens.
Surveiller les gens, ouais. Surveiller les conflits sociaux, ouais. Surveiller les phénomènes de radicalisation, des choses comme ça. Et quand je dis radicalisation, ça s'arrête au terrorisme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout chargés du terrorisme, là, c'est un autre service.
Mais c'est des sortes d'espions nationaux sur le territoire, c'est ça, de l'intérieur, ouais.
C'est des espions de proximité, on va dire, du quotidien, des petits espions très français.
Alors, on va, grâce à vous, Olivier Tosser, raconter l'histoire des RG. Donc, on va dire avant 2008, hein, pas leur successeur. Dans l'œil des RG, c'est ce que vous publiez avec Nicolas Beau, le livre que vous publiez, pardon, chez Robert Laffont. Et on va s'appuyer sur une première histoire qui est sans doute l'une des plus emblématiques des dérives possibles de ces renseignements généraux. On est au dernier trimestre de l'année 1980 et la cible des RG, c'est cet homme.
Misère, misère ! C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère.
Coluche, évidemment. Olivier Tosser, pourquoi devient-il la cible des RG en 1980 ?
Eh ben, en 1980, ça commence un peu comme un canular, mais Coluche décide de se présenter à la présidentielle de 81. Et dès le début, ça ne va pas du tout plaire au pouvoir. Pourquoi ? Parce que son idée, qui était une espèce de blague au départ, en fait, prend très bien dans l'opinion.
Il monte dans les sondages.
Il arrive à 16% d'opinion favorable dans les sondages, tout en ridiculisant le monde politique et le pouvoir giscardien de l'époque. Ce qui fait que le pouvoir en place, et le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, considère que c'est une plaisanterie de mauvais goût et qu'il faut la faire cesser.
Comment il va être suivi, surveillé, Coluche ?
Alors, tout de suite, dès son annonce de candidature, on va le surveiller de façon très physique, physiquement. C'est-à-dire qu'on va mettre les renseignements généraux mettent un soum, comme on l'appelle ça, c'est-à-dire une camionnette banalisée. Une camionnette banalisée avec vitres teintées pour le surveiller devant chez lui, pour savoir qui rentre, qui sort, qu'est-ce qu'il fait.
Il le voit, ça. L'idée, c'est d'impressionner, j'imagine aussi.
C'est d'impressionner parce qu'évidemment, la camionnette est en face et très rapidement, les gens, l'entourage de Coluche et son entourage se rendent compte qu'ils sont surveillés. Donc, ça, c'est la première initiative que les renseignements généraux prennent. Et puis, il y a une autre initiative qui est ils vont essayer de trouver dans le passé de Coluche des choses plutôt négatives pour un peu salir son image. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se plonger dans les fichiers de police et il se trouve que Coluche, quand il était jeune, avait eu un petit souci, il avait commis un petit vol, vraiment rien de très grave, il n'avait même pas été condamné, mais les RG vont ressortir cette histoire, cette vieille histoire,
Et ça va alimenter la presse qui va publier certains journaux des portraits à charge de Coluche. Mais alors, l'histoire la plus marquante dans cette campagne électorale, c'est un mort, c'est un proche de Coluche, son régisseur qui est retrouvé mort. Et là aussi, les RG vont être à l'œuvre, peut-être pas comme on l'entend et comme on l'imagine. Récit à suivre sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On va s'en occuper. Qui est-ce qui vous envoie ? INS, division 6.
Division 6. J'ai entendu parler de la division 6.
Sans blague.
RTL.
T'emmène le camion et vaillance, por favor.
Monsieur ! Monsieur, qu'est-ce que...
Monsieur te dit merde, mon petit. T'es vraiment à 100 lieues de savoir qui je suis.
La curiosité est un vilain défaut.
Tu connaissais la division 6 ? Y a pas de division 6. C'est du baratin.
Les méthodes des RG, les renseignements généraux, des espions français, espions entre guillemets, pas toujours habillés en noir, ils peuvent s'habiller un peu comme ils veulent. Voilà ce que l'on découvre dans la curiosité avec notre invité, le journaliste Olivier Tausser. On racontait la déstabilisation de Coluche à la fin de l'année 1980. Il est candidat à la présidentielle et les RG vont tout faire pour le déstabiliser. Déjà, il y a cette surveillance, cette camionnette blanche qui est toujours en bas de chez lui et qui finit forcément un peu d'alerter et de stresser. Et puis un jour, on est le 27 novembre 1981, il y a un corps qui est retrouvé, le corps de René Gorlin, c'est le régisseur lumière de Coluche. Pourquoi on le retrouve là ? Comment réagit l'entourage ?
René Gorlin, donc le régisseur de Coluche, est assassiné. On trouve son corps et très rapidement, les RG vont essayer de profiter de ce crime, en fait, pour déstabiliser Coluche. En fait, René Gorlin avait été assassiné par sa femme, en fait. C'était un crime passionnel, comme ça peut arriver. Et les policiers, les enquêteurs s'en aperçoivent très, très rapidement. Mais les RG vont demander aux enquêteurs, aux policiers enquêteurs et aux juges d'instruction, qui étaient chargés de cette affaire, de ne pas avertir Coluche que c'était un crime passionnel pour laisser planer le doute que c'était peut-être un crime lié à sa campagne, que peut-être que Coluche se frayait avec des gens pas très recommandables.
C'est absolument illégal de faire ça.
C'est absolument illégal, mais c'est quelque part... Ça se joue à la parole donnée, c'est les RG qui demandent aux autres policiers, et les autres policiers acceptent de jouer ce jeu de un peu...
Et donc l'entourage de Coluche restera dans le doute pendant plusieurs semaines,
Pendant plusieurs semaines,
avec l'entourage de Coluche. La peur qu'on peut imaginer, quoi, à qui tour.
Exactement, et d'ailleurs même Coluche lui-même ne sait pas, donc se demande est-ce que c'est lié à sa campagne, est-ce que le prochain, est-ce que ce sera pas lui. Oui. Son secrétaire particulier de l'époque m'a raconté, et on le raconte dans le livre, que lui-même avait pensé que c'était lui le prochain, et donc aller travailler avec Coluche, la peur au ventre pendant plusieurs semaines.
Ce livre, Olivier Tausser, c'est Dans l'œil des RG, publié chez Robert Laffont. On va terminer, boucler l'histoire de Coluche, parce que malgré ce décès, il continue, il maintient sa candidature, et là, les RG passent, si j'ose dire, un cran supplémentaire. Ils inventent une sorte d'association ou de groupe honneur de la police, c'est ça ? Qu'est-ce qu'ils font ?
Ils lui envoient une menace de mort, enfin plusieurs lettres anonymes de menace de mort signées d'un groupe qui s'appelle Honneur de la Police. Alors, ils ne l'ont pas inventé, ce groupe. En fait, c'est un groupe qui avait déjà revendiqué l'assassinat d'un militant gauchiste quelques mois plus tôt. Un assassinat qui n'a jamais été résolu, d'ailleurs. Pas été résolu. Et donc, en envoyant cette lettre de menace de mort à Coluche et en la signant du nom de ce groupe, Honneur de la Police, qui était déjà impliqué dans un meurtre, le but du jeu, c'est de terrifier.
Et ça marchera.
Et ça a marché parce qu'au bout d'un moment, Coluche, ça le fait plus rire du tout, en fait, cette candidature. Sa famille aussi commence à avoir peur. Il préfère arrêter, tout simplement. Et donc, les RG ont gagné.
Olivier Tausser, les renseignements territoriaux, vous nous avez expliqué, ont pris la place des RG depuis 2008. Est-ce qu'ils sont mieux contrôlés aujourd'hui ou est-ce qu'il y a encore des petites magouilles comme ça?
Non, bien sûr qu'ils sont beaucoup plus contrôlés. L'époque a changé et aujourd'hui, les procédures sont beaucoup plus fermes. À l'époque, les RG pouvaient plus ou moins tout faire. Exemple, je vous donne juste un petit exemple. S'ils voulaient se procurer le relevé des appels téléphoniques, vos relevés d'appels téléphoniques, parce qu'ils voulaient vous surveiller, savoir quel était votre entourage, avec qui vous parliez, ils avaient les moyens juste de passer un petit coup de fil chez l'opérateur téléphonique. Vous avez quelqu'un là-bas à qui ils rendaient des services et qui, voilà, ils les appelaient.
Ça se fait plus ça, aujourd'hui.
Aujourd'hui, ça se fait sûrement beaucoup moins, parce que si le fonctionnaire est pris la main dans le sac à faire ce genre de petite magouille, il va être sévèrement sanctionné, alors qu'à l'époque, c'était courant.
Les RG, une arme dans la main du pouvoir, de 1937 à 2008. Dans un instant sur RTL, on vous raconte le bras de fer entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, juste avant les élections présidentielles en 2002.
RTL.
Ce livre, je l'écris jour après jour. Parfois gay, parfois désenchanté, mais toujours passionné.
Bon Merlot, vous allez l'embrasser, oui ou merde ?
La curiosité est un vilain défaut.
Qu'est-ce que vous fabriquez là ? Pas quoi ?
Le flacon, Merlot.
Merde.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Merde. Le but de la mission, ça n'est pas que de culbuter la cible, c'est aussi de l'empoisonner.
La curiosité dans l'univers des espions, mais des espions de l'intérieur, les RG, les renseignements généraux. Dans l'œil des RG, c'est le thème de notre curiosité. Et le titre du livre de notre invité, le journaliste Olivier Tosser. Vous nous l'avez dit, hein, les RG, au départ, ils sont chargés de... Ça a été créé en 37. Ils sont chargés de surveiller la société, l'évolution de mouvements potentiellement violents pour protéger l'État. Et puis, ils ont été dévoyés. C'est-à-dire que, en fait, ils servaient surtout le pouvoir en place. Et on va raconter un bras de fer qui est celui de la campagne présidentielle 2002. Je rappelle que Jacques Chirac est président de la République, Lionel Jospin est Premier ministre. Qui a la main sur les RG à l'époque ?
Normalement, c'est le ministre de l'Intérieur, donc c'est la majorité de Lionel Jospin, en l'occurrence Daniel Vaillant, qu'on a interviewé. Mais il se trouve que le directeur des renseignements généraux de l'époque est très chiraquien, en fait, et a décidé de privilégier le président Jacques Chirac. Lionel Jospin s'en rend très rapidement compte et demande donc via son ministre de l'Intérieur à changer de directeur des renseignements généraux pour avoir quelqu'un de plus neutre.
Mais comment il s'en rend compte qu'il est pro-chiraquien ?
Il s'en rend compte parce que dès le début, il y a un certain nombre de petits coups tordus dont il s'aperçoit il s'aperçoit très rapidement que la source est souvent aux renseignements généraux. Voilà.
Il demande à changer le directeur des RG. Et là, il y a bras de fer entre Chirac et Jospin.
Et donc là, il y a un bras de fer. C'est-à-dire que Jacques Chirac refuse changer de directeur des renseignements généraux. On comprend qu'il le refuse, puisque c'est quelqu'un qui le sert, en fait. Et Lionel Jospin et Daniel Vaillant, son ministre de l'Intérieur, vont décider de ne pas aller jusqu'au clash avec le président, de ne pas faire d'incident de la cohabitation. Et donc, le directeur des renseignements généraux va rester, protégé par Jacques Chirac, va rester en poste et va multiplier les tentatives de déstabilisation de la majorité socialiste et de Lionel Jospin.
Mais c'est quoi ces coups tordus ? Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on lui fait à Lionel Jospin ? On révèle des petits secrets ? On lui tend des pièges ?
Il y a par exemple une histoire qui est, à un moment donné, Lionel Jospin achète une résidence secondaire à l'île de Ré.
Ouais.
Et tout d'un coup, il y a une association contre les notaires qui était présidée par la compagne du directeur des renseignements généraux, qui décide de porter plainte contre Jospin en considérant que les conditions d'acquisition de sa maison de campagne n'étaient pas claires, que l'origine de l'argent n'était pas très très claire. Bref, porte plainte. Donc comme il y a une plainte, il y a une enquête judiciaire. Au bout de quelques semaines, l'enquête judiciaire va s'apercevoir que tout était faux, que Lionel Jospin avait acheté une maison avec un crédit bancaire tout à fait normal, donc il n'y avait absolument aucune affaire. Mais pendant... entre le moment de le dépôt de la plainte et le fait, lorsque la justice découvre qu'il n'y a rien, ben il s'est passé plusieurs semaines, et pendant plusieurs semaines, il y a eu des articles dans les journaux.
Ah oui.
Des articles dans les journaux qui disent que les conditions d'acquisition de la résidence secondaire de Lionel Jospin ne sont pas claires. Et donc ça abîme l'image de Lionel Jospin.
Il y a eu aussi le passé, la jeunesse, le passé trotskiste de Lionel Jospin. Là aussi, les RG sont à la manœuvre.
Oui, tout à fait. Ils ne sont pas à l'origine de la chose, parce qu'effectivement, Lionel Jospin, dans sa jeunesse, avait été lambertiste, donc gauchiste, on va dire, et n'avait pas envie que ça se sache. Okay. Les renseignements généraux ont découvert ça et ont tout fait pour que ça devienne une vraie affaire politico-médiatique. Donc comment ils ont fait ? Ils ont, le directeur des RG en l'occurrence, a prévenu pas mal de journalistes amis ou de journalistes qui avaient des contacts pour en faire une affaire et pour gonfler un peu ce scandale qui n'en était pas un vraiment.
Mais comme Jospin avait du mal à l'assumer, voilà. Ça l'a mis en difficulté.
Exactement.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Et la curiosité continue avec toujours ce thème qui finalement nous ramène dans l'univers de la police, puisqu'on raconte l'histoire des renseignements généraux avec le journaliste Olivier Tosser. Et on le disait tout à l'heure, le fonctionnaire qui a porté cette attaque travaille dans le service qui est l'héritier des RG qu'on appelle, rappelez-nous le nom...
La direction du renseignement à la préfecture de police de Paris.
La direction du renseignement à la préfecture de police de Paris. On va raconter une dernière histoire qui concerne les RG qui ont disparu, je le rappelle, depuis 2008. Ils changent de nom après, hein, vous nous l'avez dit. Comment Rachida Dati, donc on est après la disparition des RG, hein, si je comprends bien, qui était ancienne garde des Sceaux, s'est retrouvée dans le viseur de ce service?
C'est au moment où elle est garde des Sceaux, justement. Ouais. Les renseignements généraux n'existent plus, mais à la place, il y a eu la DGSI, la DCRI, pardon, plus exactement, le renseignement intérieur, qui est dirigé par un ancien des renseignements généraux qui s'appelle Bernard Squarcini. Donc, il garde les méthodes des renseignements généraux. Et à ce moment-là, donc, Rachida Dati tombe enceinte et ne dévoile pas le nom du père de sa fille. Personne ne le sait. Donc, ça devient un petit jeu dans le tout Paris de savoir mais qui est le père de la petite Dati. Et personne ne le sait. Même le président de la République ne le sait pas. Même Nicolas Sarkozy ne le sait pas. Et donc, c'est à ce moment-là que les gens du renseignement qui ont toujours cette tradition des renseignements généraux se disent si on arrive à apporter le nom du père de la fille de Rachida Dati au président de la République, il sera content. C'est juste pour faire plaisir au prince. Et donc, pendant plusieurs mois, le renseignement français s'est mis sur la piste, sur les différentes pistes, puisqu'il y a plusieurs noms qui ont circulé, pour savoir qui était...
Et ils ont trouvé au moins ce petit jeu ?
Et ils n'ont pas trouvé, parce que personne n'a trouvé, et que même peut-être Rachida Dati ne sait pas exactement qui c'est.
Ah bah écoutez, on va terminer là-dessus, je suis pas sûr qu'elle sera ravie, et c'est sa vie privée. Merci beaucoup Olivier Tosser, vous publiez avec Nicolas Beau, dans L'œil des RG, c'est aux éditions Robert Laffont.